Bien, alors tout d'abord, je remercierais Sébastien d'avoir eu la folie de m'inviter à cette conférence passionnante. Dans cette communication, j'essaierai de mettre en ordre quelques réflexions non encore systématisées au sujet de la conception et de la mise en circulation d'une gamme particulière d'images environnementales, à savoir les cartes satellites ou spatiocartes, donc, qui peuvent servir de set de table, je n'étais pas au courant, produites et utilisées à l'occasion de grandes catastrophes, comme, alors j'en cite quelques-unes, le cyclone Katrina en Louisiane en 2005, le tremblement de terre de Haïti en 2010, le séisme de la côte pacifique du Japon en 2011, ou encore l'ouragan Sandy de 2012. Alors, comme l'y invite l'argument de la conférence, j'identifierai les stratégies et les imaginaires sous-tendant la production, la circulation et le pouvoir des images environnementales. Je le ferai à titre exploratoire et par moments non sans spéculer. Je ne sais pas si ce sera des provocations, mais il y a des chances que cela résonne avec l'exposé de Cathy et Michel, peut-être. Afin de ne pas me perdre en surinterprétation sémiotique sur le statut iconique ou la portée symbolique de ces images, je partirai d'une étude de cas qui en croisera d'autres. J'envisagerai la production de cartes de crise par la Charte internationale Espace et catastrophes majeures, Disaster Charter en anglais, soit un mécanisme de coordination globalisé tirant parti d'un ensemble de ressources satellitaires, de segments sols et de services et laboratoires de cartographie. Depuis son lancement opérationnel en 2000, à l'initiative du CNES et de l'Agence spatiale européenne, après plus de 400 activations, à peu près une quarantaine par an, le mode opératoire a peu varié. En une trentaine d'heures après le déclenchement, des produits de cartographie rapide sont diffusés en bout de chaîne au terme d'une opération réalisée en best effort, suscitant la collaboration de dizaines de personnes, souvent dispersées en tout point de la planète. Ces produits sont utilisés par, alors c'est selon, les protections civiles et des organisations humanitaires dans l'immédiate catastrophe. Ils sont livrés gratuitement par la quinzaine d'agences spatiales et les opérateurs privés partenaires, lesquels entendent ainsi démontrer l'apport effectif à l'intérêt général de leurs coûteuses machines orbitales. La charte n'est pas le seul dispositif de ce type. Il y a même pléthore de programmes gouvernementaux et de solutions commerciales. Mais dans le cadre de cet exposé, qui sera rapide, comme la cartographie que je vais étudier, elle peut constituer une chose bonne à penser. Alors, sans prétendre un instant l'épuiser, j'enchaînerai deux développements qui chacun dépliera l'idée d'une production cartographique ajustée à l'avènement d'un nouveau monde depuis les années 90 et l'effondrement du monde bipolaire hérité de la guerre froide. En l'occurrence, un monde globalisé gagné par ce que Marc Abeles appelle la politique de la survie, qui éprouve la succession des catastrophes à grande échelle. Alors commençons par situer ces images. Alors, il s'agit de produits cartographiques de crise. Le terme idiolectal de production signifie ici un certain mode d'existence, dans un sens non latourien, de cet objet technico-symbolique qu'est la spatiocarte. Production au sens donc d'une création, d'une transformation finalisée à vocation praxéologique, ça doit servir et vite dans le moment de la crise. Production parce que aussi cette activité distribuée se situe à l'intersection de plusieurs industries productrices, de l'humanitaire, du disaster management, de l'observation de la Terre par satellite. Production enfin, et j'y reviendrai, car l'une des fonctions pratiques stipulées de ces cartes est précisément d'étayer des points de vue d'ensemble sur les désastres, d'en produire la tangibilité en un temps limité, d'en produire l'évidence ici et maintenant et pour le temps à venir. Puisque, en effet, l'accumulation de cartes entretient une mémoire des catastrophes. Avec 400 activations, il y a un stock de données assez immense qui a été engrangé. Alors que ces cartes fassent des mondes, c'est de l'ordre de l'allant de soi ou du truisme pour les professionnels qui les élaborent. Comme l'attestent les données dont je dispose, en l'occurrence des entretiens avec les ingénieurs et scientifiques, des cartographes aussi qui réalisent ces cartes, mais aussi des archives électroniques d'une activation, en l'occurrence celle d'Haïti, en plus de la littérature grise. Donc des données qui révèlent les ressorts de la conduite du système profilé pour l'image, laquelle expose à des choix à opérer sans délai. Alors, en l'occurrence, quel satellite utiliser étant donné les conditions météorologiques, optique ou radar, quelle résolution, quelle scène acquérir, quelles images prélever dans les archives afin d'établir la vue avant pré-crise, je vais y revenir, quel traitement cartographique privilégié pour que l'information soit préhensible par les utilisateurs finaux d'un coup d'œil, par exemple les pompiers, quelle échelle, quel détail surligné, etc., etc. D'un côté, donc, s'observe un souci de reproductibilité du loop opérationnel, que j'ai présenté tout à l'heure, par la reconduction de procédures formalisées et d'automatismes qui s'imposeraient à tous les membres qui coopèrent au sein de la charte, et plus particulièrement au project manager qui est aux commandes et qui centralise toutes les activités. De l'autre côté, les acteurs soulignent que chaque activation génère ses propres problèmes, qu'elle constitue ainsi un ajustement d'autant plus prenant, du point de vue de l'activité, qu'il s'opère à distance et dans l'incertitude d'une situation de crise à la définition de laquelle, précisément, les produits cartographiques contribuent. Ces deux aspects de la routine et de l'adaptation incoative sont tous deux fonctionnels dans l'opérativité du mécanisme, bien que la seconde soit plus difficilement discernible à l'extérieur, ce type d'activité ne souffrant pas l'indécision. Alors, il importe en tout cas de noter que si les producteurs s'entendent sur le caractère techniquement construit des vues dont la charte assume l'auctorialité, ce n'est pas le réel, c'en est une version vraisemblable, ils n'en perçoivent pas toujours la dimension et les implications sociales. Comme si la technique opérait presque d'elle-même, comme si le design et les finalités assignées découlaient d'une pure rationalité technique. Or, si collatérales ces représentations soient-elles, elles résultent d'une production sociale de l'espace, au sens qu'en a donné Henri Lefebvre il y a quelque temps, soit un ensemble de pratiques sociales, production et représentation, qui organisent, délimitent ou découpent l'espace physique peuplé par les groupes humains, ici mis en danger. En d'autres termes, dans l'intervalle critique qui est celui de la crise, les spatiocartes produisent la projection d'un espace socio-géographique apprêté pour la seule consommation des techniciens et des experts de l'industrie humanitaire qui doivent déployer leur force au sol. Alors, les producteurs, comme les utilisateurs, se fichent d'ailleurs de concevoir de belles cartes. Il s'agit plus directement de les projeter dans l'action, d'en faire des outils. Les cartes de situation opèrent à la façon de prothèses visuelles pour des organisations autorisées qui veulent voir vite. Le réel représenté sera d'autant plus intelligible qu'il sera préhensible. Cette production sociale d'une spatialisation calibrée pour les événements catastrophes en recoupe une autre. Je suis désolé pour la traduction, ça va être affreux. Et ça va être de pire en pire. Ces spatiocartes mettent également en scène ce que le sociologue Arthur Stinchcombe appelle la production sociale d'une stratification épistémologique dans les sciences appliquées, des savoirs les plus ésotériques à leur métabolisation dans les machines. En l'occurrence, les contributeurs autorisés de la charte enrôlent les infrastructures, l'acquisition des données, la production des outputs, que sont les cartes, leur usage dans la mesure de ce qu'ils imaginent possible. Cette maîtrise de l'organisation pratique des savoirs ou de la télédétection, couplée à ceux de la géomatique, qui va produire les cartes, renforce un entre-soi producteur dans la charte community. C'est une charte, précisément, qui en régit les opérations, et du point de vue de ses membres de droit, c'est ce qui garantit la qualité et la fiabilité de ces visualisations. La spatiocarte en porte les traces, comme vous pouvez le voir. Elle est ornée de signes extérieurs d'autorité épistémique, à même d'insuffler la confiance auprès des utilisateurs autorisés. Des logos en bas à droite, des avertissements en guise d'aide à l'interprétation juste, une présentation d'ensemble qui ne laisse que peu de place à la variation, bref, un produit standardisé, quel que soit le désastre, qui n'a d'intérêt que dans la perspective d'une adéquation aux desiderata des organisations de secours et des ONG dans la boucle pendant une crise. Si les promoteurs et les démonstrateurs de cet usage très visible de la télédétection ont tendance à exagérer quelque peu la contribution des spatiocartes dans la gestion de crise, à les écouter, les satellites sauveraient littéralement des vies, la cartographie rapide est un outil désormais viabilisé et routinisé, comme me l'ont rappelé les officiels du ministère de l'Intérieur que j'ai pu interviewer en 2011. Pas de doute pour eux, quand une catastrophe survient, ils attendent la livraison express de la carte de situation. Alors continuons encore un peu sur les ressorts de la production sociale de ces vues. J'attirerai l'attention sur l'arrière-plan culturel et la philosophie politique implicite de ce que Barney Whorf appelle l'oculocentrisme satellitaire, c'est-à-dire un certain mode de connaissance du monde, hérité de la vieille perspective de la Renaissance, médié par des techniques de visualisation, ici l'imagerie satellite, avec son apparente view from nowhere, son objectivité pixelisée. Là, je citerai Barney Whorf pour saisir un peu cette performativité des images. Les images générées par cette technologie sont des produits sociaux et politiques qui représentent moins les lieux et les populations dépeintes qu'elles les constituent activement, et là, en l'occurrence, pendant une catastrophe. Plus globalement, si c'est possible, de par leur incorporation et leur agrégation dans des systèmes d'information géographique, Les données satellites nourrissent vraisemblablement le fantasme de la maîtrise totale du globe, inspirant une vision technocratique du monde, pour reprendre une expression de Sébastien, que j'extrais de son tout récent livre « La Terre vue d'en haut », page 38. Il est clair en effet que la charte est un spin-off des dites sciences du désastre, les disaster sciences, ces disciplines qui connaissent la crise. Comme les autres émanations des systèmes d'information géographique implémentés dans les situations de crise et la palette de savoirs experts subsumés sous l'étiquette du disaster management, les produits chartes s'inscrivent dans un paradigme de l'ordre social, à savoir, et je me fie à la définition qu'en donne Nicolas Dodier, un ordre vulnérable en proie au risque, un ordre qui ne manquera pas d'être finalement ébranlé par la catastrophe, ordre qu'il s'agit de restaurer dans son intégrité dans l'après. Alors, production, reproduction, j'en viens à mon deuxième temps. Le process donc de production est réglé, mais il n'empêche que les spatiocartes, quoique conçues en best effort dans une situation de crise, finalisées a priori donc, n'en excèdent pas moins cette situation. Car en effet, et ce sera donc le deuxième temps de l'exposé, il arrive qu'elles entrent dans de nouvelles boucles d'usage, qu'elles surnagent dans l'océan de l'Internet, copier-coller ça et là, transplanter des bases de SIG professionnels vers des sites, parfois même délestés de leur légende, qui était si fondamentale pour les décrypter, comme ce fut le cas dans l'après-tempête Xynthia, j'avais mis l'image au tout début, où les spatiocartes sous crédit Cypher, qui est un autre dispositif de cartographie rapide, furent recyclés par les habitants des zones sinistrées pour contester les décisions des autorités publiques en matière de reconstruction ou de réaménagement territorial. Peut-être les agences et les opérateurs comme GeoEye n'ont-ils pas encore, et pour cause, pas forcément que ça à faire, pris la mesure des effets épistémologiques, politiques et culturels produits par les images de désastres, du genre de rapports scopiques qu'elles induisent et contribuent à banaliser là où celles-ci sont accessibles ou lisibles. Comme il m'est impossible de tout dire ici sur le braconnage culturel de ces images, je me limiterai à quelques figures. Les images plongeantes de la centrale éventrée de Fukushima Daiichi, gracieusement mise à disposition par Digital Globe, qui fait un magnifique coup de pub en passant, ont été marquantes et ont saturé l'espace perceptuel de la catastrophe. Cette image-là impose un certain régime d'évidence. Elle saute littéralement aux yeux, autant qu'elle frappe l'esprit, se substituant au discours qui est comme tétanisé par l'événement. On voit bien qu'il s'agit là d'un désastre. Elle apparaît ainsi suspendre l'effort de perception. Elle fait écran, elle rend à l'évidence. La hauteur du point de vue satellitaire provoque un effet d'abstraction, renforçant la présence référentielle des zones sinistrées. Elle veut concerner le téléspectateur, et ça opère avec d'autant plus d'intensité lorsque les images forcent le rappel et celles et ceux qui étaient là, présents dans les mêmes espaces que les images satellitaires, figent en scène. Je citerai une poétesse japonaise, Ryoko Sekiguchi, qui résume bien ce sentiment de présence de l'image, en l'occurrence satellite. Quand on se sent concerné, l'image n'est plus une image, elle devient réalité. Même lorsqu'on n'est pas directement touché, l'image conserve son statut d'image et ce sont ces réalités images qui nous assaillent chaque fois que le Japon subit une nouvelle catastrophe et qui se superposent devant nos yeux rivés au poste de télévision. Les catastrophes succédant à un rythme régulier, superposant toujours plus d'images, d'autres exemples de ces figurations par l'image satellite ne manqueront pas de s'accumuler encore et encore. C'est toute une économie visuelle qui se trouve impliquée dans la perception de ces images satellites, des images auto-évidentes, imposant l'évidence de leur objectivité, l'objectivité de leur évidence. Elle suppose la stabilité de l'objet visuel, la stabilité du sujet voyant, la stabilité du moment de la perception. La simple image de la Terre dont l'observateur a été familiarisé à accorder sa créance suggère en effet, comme l'infère Georges Didier Huberman dans ses analyses des productions cubistes de Tony Smith, qui met en série des formes abstraites et auto-évidentes, se suffisant manifestement à elles-mêmes. Je citerai « Ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons ». Elle est solidaire d'une certaine assurance ontologique. La vérité du réel s'exprimerait à la surface de l'image. Or, ce qui fait l'intérêt pratique de la spatiocarte, c'est la dynamique qu'elle introduit dans l'observation et l'évaluation quasi immédiate des dégâts engendrés par la catastrophe. La stratégie visuelle du « avant-après » introduit un contraste saisissant, un décalage perceptif. Le site du New York Times publie dès le 13 mars 2011 des images avant-après mises en circulation par les équipes de Google Earth and Maps via des données acquises par GeoEye-1. Ils rendent visibles les dégâts engendrés par le séisme survenu 2 jours auparavant. Le même jour, le site d'ABC News dévoile une animation interactive à partir des mêmes scènes. Ils le font systématiquement quand une grande catastrophe arrive. En déplaçant le curseur, alors là je ne peux pas le faire en direct, hélas, l'internaute s'inclut en télévision dans le scénario de la catastrophe. Il peut inverser le cours temporel, passer l'après vers l'avant, risquer des va-et-vient avant-après-avant, balayer l'image superposée à la façon du tsunami. Le montage l'image, réalise le projet de l'image-mouvement et crée ainsi les conditions d'une perception originale de la temporalité de l'événement. C'est un usage, parmi d'autres, de ces images satellitaires, qui s'est aujourd'hui routinisé. Le réel s'en trouve transfiguré. Le avant n'est plus, le après est perçu dans un présent chaoté par le désastre, et en puissance s'annonce comme l'avant d'un futur après. Et les producteurs de conceptions séquencées et holistiques des cycles de gestion des catastrophes, prévention, réduction des risques, préparation, protection, réponse, reconstruction et retour, ça tourne, les catastrophes viendront toujours, ces producteurs donc d'ancrer dans les consciences qu'ils entendent toucher la nécessité de se faire à la catastrophe qui vient, d'accroître ce qu'il est convenu d'appeler la résilience, sans autre horizon que le pire dans un état latent d'alerte. Posture politique à laquelle, suggère Sheila Jasanoff dans un élan normatif coproducteur, il conviendrait d'opposer une symétrisation de l'appréhension collective des risques, qui consisterait à rompre avec les techniques top-down et technocentrées du disaster management, je parlais de l'agir technocratique tout à l'heure, lesquelles sont plaquées sur les situations de crise dans l'indifférence de l'expérience des populations éprouvées par la catastrophe. On revient au niveau local qui était évoqué précédemment. Comme le souligne l'ANEC Urbon dans un ouvrage récent consacré au séisme en Haïti de 2010, je le cite, « Tout se passe comme si la tendance à la banalisation des catastrophes, du fait de leur rapide mais volatile médiatisation, était devenue la règle. Tel est sans doute le paradoxe de la mondialisation qui rend possible la diffusion en temps réel de l'information sur les catastrophes. » Il me semble que, justement, l'imagerie spatiale, ce type d'imagerie spatiale, est un vecteur parmi d'autres de cette banalisation. Il n'est qu'à se replonger dans l'expérience de la catastrophe en train d'advenir, avec son lot d'inquiétudes et d'angoisses collectives, pour se convaincre de la lente mais sûre percolation de cette représentation satellite. Le spéculaire s'y allie au spectaculaire dans une fiction d'observation de la catastrophe à venir en tant quasi-réel. Est-ce que ça marche ?
Ah !
Zut, ça devait bouger magnifiquement. L'image mouvement, sais-tu ? Oh ! Ça marche jamais quand... C'est rageant, hein ! Le cas de Sandy donc me servira d'illustration. Comme d'habitude, la charte a été activée. Le 1er novembre 2012, par l'US Geological Survey, pour le compte de la Federal Emergency Management Agency, et 3 jours avant par UNOSAT à Haïti, encore et toujours touché. Mais on le voyait beaucoup moins. Les produits charte livrés ont été perçus comme très utiles par les secours en retour d'expérience, en complément notamment des satellites de télécommunication et des systèmes de géolocalisation. Quelques jours avant les ravages de Sandy sur les côtes du New Jersey et de New York, des images satellites ont aussi informé les populations bientôt impactées, donc on est dans l'avant-crise, et le reste du monde connecté. Évidemment, il faut être connecté. À partir du 21 octobre, en effet, les satellites GOES 13 et 15 de la NOAA, ainsi que d'autres plateformes de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, ont rendu tangible la naissance de la tempête tropicale dans les Caraïbes, l'augmentation de son intensité, puis son déplacement dans l'océan Atlantique vers la côte est jusqu'à Manhattan. Bon, voilà, ça bougeait en principe, c'était magnifique. À la différence des tornades violentes qui dévastent les États du Midwest américain et que les services d'alerte ont peine à anticiper, les populations, enfin celles donc qui étaient connectées, étaient cette fois comme suspendues à l'arrivée du superstorm. Avant et pendant, les alertes et les images, dont les spatiocartes, étaient reprises par la télévision, circulaient de façon endémique sur les réseaux sociaux, tweetées et retweetées à l'infini, dans un déluge de discours catastrophistes pour les gens concernés, ou médusés pour les gens consternés. Passé Sandy, une fois l'électricité et les infrastructures rétablies, les gens pouvaient découvrir à froid l'étendue des dégâts. En plus de la vision des images avant-après, errer, il pouvait errer sur les nombreuses bases de données d'informations géographiques qui rassemblaient les spatiocartes et les centaines d'images produites durant la crise. Alors, je ne pousserai pas davantage l'accumulation d'indices tendant à attester une domestication de ces vues dans le cours des catastrophes. L'idée était très modestement d'en mettre en série quelques-uns, de les déplacer sur une autre scène interprétative que celles sur lesquelles elles sont désormais ordinairement endogénéisées. Et je conclurai. Il fallait bien que je mette un satellite quand même. N'ayant ni théorie à défendre, ni intérêt existentiel dans l'étude des images scientifiques, quoique très stimulant, c'est un aspect périphérique de mon travail sur les activités spatiales, je conclurai donc sur une courte réflexion d'outsider sur l'effet de ces images dans les disciplines qui, ces derniers temps, trouvent visiblement quelque intérêt à en légitimer l'étude. Alors, quand je préparais mon intervention, toujours en dernière minute, j'ai trouvé intérêt à relire la littérature savante sur les images scientifiques, qu'elle émane de l'histoire des techniques, de l'art photographique, des médias, cultural et ou visual studies. Les images satellites suscitent la sidération, je l'ai décrit, autant dans le monde social ordinaire que, semble-t-il, dans les milieux académiques. Dans ce bombardement d'images, l'interprétation sémiotisante n'est pas aisée, la méthodologie souvent hasardeuse. On oscillerait entre, d'un côté, j'y vais vraiment à la louche, les récits et les descriptions denses de la performativité d'images qui ont frappé les esprits, telle la vue Digital Globe de la centrale de Fukushima, mais on peut reprendre la Blue Marble. De l'autre, pour ainsi dire, sidéré en orbite, des décodages hyperboliques d'un objet scriptovisuel supposé ouvert, qui pourrait tout nous dire, serait aussi une autre voie d'interprétation. Donc d'un côté, focalisation à marche forcée et association libre d'idées, et de l'autre côté, décrochage herméneutique. Ce n'est pas que tout se vaut, mais regardez de près, l'administration de la preuve dans cette interprétation des images se laisse souvent désirer. Ayant déplié l'hypothèse de l'oculocentrisme satellite, à coup d'indices pêchés sans méthode rigoureuse, je serai le premier à plaider coupable. Dans la littérature, ces deux polarités balisent l'espace de l'interprétation. Ainsi, les approches géographiques critiques de l'observation satellite, que j'ai relues, développées dans les années 90 notamment, c'est pas tout neuf, au moment même où l'observation de la Terre civile gagne en visibilité, avec des programmes comme SPOT en France, ces approches critiques, donc, pouvaient avoir certains angles d'attaque. Par exemple, je pourrais citer des interprétations qui font du point de vue orbital et des images qui en découlent le résultat de l'emprise d'un regard masculin, voyeur, qui n'est pas vu, cartésien et froidement mécaniciste. Recyclant sur le système Terre la rhétorique du dévoilement dans le contrôle et la domination de la nature que Caroline Mercant découvre au cœur de la révolution scientifique, confère de Death of Nature, les producteurs de représentations spatialisées reproduiraient un stéréotype genré et ethnocentrique de l'appropriation du naturel. En l'occurrence, leur produit serait actif, positif et salvateur et capturerait des portions d'une nature passive, vulnérable et meurtrie. La catastrophe ici serait par exemple une espèce de crise hystérique de cette faible Gaïa que les sciences et techniques du désastre ausculteraient puis s'efforceraient de guérir par la force de leurs expertises. C'est le genre d'interprétation que j'ai pu lire des images satellites. D'autres... Moi, j'ai des références en note de bas de page. D'autres options interprétatives, possiblement consonantes avec la précédente, devinent en deçà de l'image, de sa transparence et de son évidence, le projet, plus ou moins souterrain, inquiétant et dissimulé, d'étendre la surveillance et l'ordre biosécuritaire à l'échelle de la planète. En ce sens, la globalité, qui est supposée quand on parle de ces images, serait moins une qualité physique intrinsèque de ces images environnementales que l'aveu d'une volonté hégémonique pour des puissances nostalgiques de l'Empire. Je deviens poétique. Comme les images sur lesquelles celles-ci, donc ces interprétations, aiment à gloser, donc ces exagérations sur les crêtes de l'interprétation sont tout aussi bonnes à penser que les images, je veux dire du point de vue d'une sociologie de la connaissance académique. Et si l'on admet, à la suite de Georges Didier Habermann, que, je cite, « la plus simple image de ne pas avoir quelque chose qui s'épuiserait dans ce qui est vu, voire dans ce qui dirait ce qui est vu », il y a des chances que ces images satellites, proliférantes et facilement accessibles, nous fassent encore beaucoup parler. »